Alors, tout indique qu'un des premiers gestes du président Biden, après son assermentation, ce sera d'annuler le projet Keystone, c'est-à-dire donc ce pipeline qui part de l'Alberta vers le sud. Et on a vu hier toutes sortes de réactions, l'Alberta, les conservateurs, M. Trudeau qui veut tenter de maintenir le projet. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Canada, Nathalie?
Bien, tout d'abord, Paul, je pense que ça sent la chicane de ménage ce matin entre Luc et moi. Je dis ça parce que moi, je suis plutôt du... Je suis celle qui dit ce matin, c'est une mauvaise nouvelle pour le Canada. Une mauvaise nouvelle sur le plan économique, tout d'abord. C'est un projet de 15 milliards qui aurait permis à l'Alberta, province, on sait, productrice de pétrole, d'augmenter sa capacité de production. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour le positionnement stratégique du Canada sur l'échelle, à l'échelle mondiale. Il faut savoir que le Canada est le 5e producteur mondial de pétrole. On a tendance à l'oublier, là, mais c'est après les États-Unis, la Russie, l'Arabie saoudite et l'Irak. Le Canada actuellement produit 4,5 millions de barils de pétrole par jour et Keystone XL aurait permis d'ajouter 860 000 barils par jour. Je comprends le désarroi dans lequel est plongé le premier ministre de l'Alberta actuellement, Jason Kenney, qui a dit hier, écoutez, c'est une mauvaise nouvelle, on anticipe une perte de revenus de 30 milliards d'ici 2030. Mais je me disais, sous l'angle du Québec, qu'est-ce que ça veut dire? Tout de suite, j'ai pensé à la péréquation, évidemment, parce qu'on reçoit quoi? Plus de 13 milliards de péréquation. Et là-dessus, il y en a 1,8 milliard qui vient directement de l'Alberta, un. Deuxièmement, près de 40 % du pétrole qu'on consomme au Québec vient de l'Alberta. Alors, conclusion, on n'a pas intérêt à ce que l'Alberta s'appauvrisse.
Oui, c'est un fait, mais ça fait longtemps que le bitume, les sables bitumineux sont sur la sellette. Ça fait longtemps que il y a un double problème. Il y a un problème de prix et puis il y a un problème écologique. Le problème de prix, c'est que le coût d'extraction du pétrole est énorme. Et le pétrole momentanément a remonté un peu depuis un mois, mais c'est sur des raisons spéculatives. En moyenne, il était à 30 $ le baril depuis le Western Classic, là, celui qui est produit par... l'Alberta, il est 30-32 $ depuis un an. Et son coût d'extraction est autour de 50 $ 50 à 90 $ Donc, les entreprises comme Suncor s'endettent pour être capables de le vendre ou alors ne paient pas, n'arrivent pas à faire leurs frais. Là. Ils ont des immobilisations qui ont été faites depuis longtemps et ils ne remboursent pas leurs immobilisations. Et là, la solution pour l'Alberta, c'était de dire, ben, on va avoir des pipelines qui vont partir dans toutes les directions. Là, il y avait le fameux Énergie Est qui partait vers l'Est. Il y a Trans Mountain qui va vers la Colombie-Britannique, Northern Gateway, puis Keystone XL qui va vers le sud, sud-ouest des États-Unis. Et avec cette masse-là de production supplémentaire, on va avoir des effets d'échelle, puis un jour, de toute manière, il ne restera plus de pétrole en puits, et nous, à ce moment-là, on prendra la relève. Il y avait un plan d'affaires derrière ça, mais c'est un plan à très long terme qui nécessitait que le prix du pétrole se maintienne. Mais il ne se maintient pas, le prix du pétrole. Il ne se maintient pas parce que la voiture électrique, parce que les centrales d'énergie nouvelle et renouvelable, parce que la baisse de la consommation, tout simplement. Tu sais, tous les autobus chinois, maintenant, fonctionnent à l'électricité. C'était une sorte de course contre la montre en disant de façon héroïque, oui, on veut que ça soit la solution de l'avenir, mais juste économiquement, là, même sans parler d'écologie, oui. C'est pas la solution
mais
de l'avenir.
Mais là, je regrette, on ne peut pas dire qu'il y a une baisse pour le pétrole à l'échelle mondiale. Deux chiffres, en 1997, c'était quoi 97, l'année du protocole de Kyoto? Mm-hmm. 70 millions de consommation de barils par jour dans le monde. Aujourd'hui, 2020, on est rendu à 100 millions. Qu'est-ce qui va arriver après la pandémie, selon vous? On va vouloir
là-dessus.
Relancer l'économie.
Ça va repartir.
Biden, 1 900 milliards d'argent qui vont être injectés dans l'économie pour relancer l'économie là-bas. Même chose ici au Québec.
T'as raison, alors, j'aurais pas dû dire une baisse de la demande, j'aurais dû dire une baisse relative. C'est parce que en même temps qu'il y a une baisse relative par rapport à la production, il y a eu le pétrole de schiste. Le pétrole de schiste qui est arrivé et aux États-Unis, la production de pétrole de schiste a explosé. Alors, il y a une baisse relative de la demande par rapport à au sable bitumineux. Le dernier pétrole qu'on veut dans le monde, là, c'est le sable bitumineux. Celui qui se vend le moins bien, c'est le sable bitumineux.
Ah, mais il y a des raffineries, par exemple, dans le Golfe du Mexique qui sont tout à fait disposées à recevoir un pétrole plus lourd, t'as raison.
Mais c'est pas une décision politique, ça. C'est-à-dire qu'Obama dit non, Trump dit oui, Biden arrive et dit non, là.
C'est-à-dire politique, regarde ce qui s'est passé. Il était approuvé en 2015. En 2015, Obama dit non. Après ça, Dès que Trump est élu, il dit à Keystone, il dit à TransCanada, redéposez votre demande de permis. TransCanada redépose sa demande de permis, elle est acceptée immédiatement, mais le Nebraska propose une route différente, puis une cour du Nebraska arrête la demande de permis. Ça va en cours, c'est long, etc. Trump réintervient à la fin du mandat, il réinsiste pour que ça passe. Mais on est à la fin du mandat. Et là, Biden va arriver puis va l'empêcher. Mais Trump a joué son rôle politique autant que Biden va le jouer.
Biden, en fait, oui, c'est une décision politique plutôt qu'économique, parce que Biden, on le sait, veut marquer un grand coup demain lors de son assermentation. Puis une des premières nouvelles qu'il va confirmer, c'est la réintégration des États-Unis au protocole de Paris, à l'entente sur l'accord de Paris sur le climat. Ça va être sa première grande annonce. Donc, pour lui, c'est incompatible. Les deux projets sont incompatibles. L'autre chose, il faut savoir que... je me disais, sur le quotidien, là, comment une décision comme celle-là peut nous affecter? On consomme de plus en plus de VUS. Puis regardez ce qui se passe à Montréal. Les gens déménagent de l'île pour aller vivre en banlieue. Fait que la consommation, la demande pour le pétrole suit la croissance économique et la croissance démographique à l'échelle planétaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, la capacité des pipelines au Canada est arrivée à son maximum. Si on veut permettre à l'Alberta de continuer de croître, si on veut permettre au Canada de continuer de bénéficier de cette croissance de pétrole sur le marché mondial, il faut trouver d'autres débouchés.
Oui, mais Nathalie, j'ai une question là.
Oui.
Tu n'es quand même pas en train de dire, je te pose la question. Pour toi, il n'y a aucun problème à continuer à produire du pétrole
bitumineux? Ah non, je ne dis pas ça, Luc. D'ailleurs, je ne dis pas ça, mais il y a toujours deux côtés de médaille. Depuis les années 2000, ça fait presque 20 ans, les producteurs de sable bitumineux ont réduit leur émission de GES de 36 %. Il y a assurément un effort qui est fait de la part des pétrolières pour réduire leur empreinte carbone. Est-ce que c'est parfait? La réponse, okay, c'est non.
Bon, regarde, pour les auditeurs, une petite information, là, façon facile de comprendre la situation des GES produits par les sables bitumineux. Produire un baril de pétrole avec du pétrole que tu retires du sol avec les dérecs, là, comme dans Lucky Luck, là, tu sais, l'espèce de pompe.
Oui,
oui, c'est ça.
Oui. Oui.
Bon, ben ça, ça te prend 1 % de produit. Le rapport entre le pétrole produit et le pétrole que ça t'a coûté pour le produire, c'est 1 %. Donc, ça te prend 1 % de pétrole que tu dois investir pour aller chercher 100 % de pétrole que tu vas pouvoir utiliser. Dans le cas du sable bitumineux, c'était 100 %. C'est-à-dire que il faut que tu mettes autant d'énergie pour aller chercher ton baril de pétrole que ce que ça va te donner en énergie finale. Ils ont réussi à le baisser de 31 %. Toi, tu as le chiffre de 36 %. Moi, j'avais le 31. Bon, on va dire que c'est... Bon, ouais, on s'entend. On coupe la poire en deux. Ouais. À 34 %. Il reste toujours bien 65 fois plus polluant de sortir de pétrole, des sables bitumineux.
Mais là, ce matin, je vous trouve bien polis tous les deux, là, dans le sens suivant. Dans le sens suivant. Tu sais, soyons clairs, là, on peut bien faire des débats sur un paquet de chiffres. La réalité, toi, Luc, je te connais depuis un bout de temps, là, tu dis ça, c'est du pétrole sale, là, en résumé. Puis on n'a pas à produire ça. Puis moins on va produire ça, mieux c'est. Toi, Nathalie, tu me dis, bien, là, les gens, ils consomment encore du pétrole.
Exactement.
Ça n'arrêtera pas demain. Oui. Puis c'est une source de revenus pour le Canada, en particulier pour l'Alberta.
Et pour le Québec aussi. Puis juste, soyons pas hypocrites dans ce débat-là, parce que moi, je me trouve très, très hypocrite. 39 % de tout ce qu'on consomme comme pétrole au Québec vient de l'Alberta. Moi, je préfère qu'on consomme du pétrole albertain que du pétrole qui vient de l'Arabie saoudite, par exemple.
Oui, mais pour l'instant, ce qui prendrait la place du pétrole albertain, ce serait le pétrole de schiste des États-Unis, qui est un peu plus polluant que le pétrole de l'Arabie saoudite. Mais peut-être que pour des raisons politiques, on dirait on veut pas consommer le pétrole d'Arabie saoudite. Peut-être, c'est correct. Mais on peut consommer quand même le pétrole de schiste américain. Mais ce qu'il faut, c'est en consommer de moins en moins. Puis le premier à partir, c'est les sables bitumineux.
Luc, on est tous d'accord avec ça. Puis écoute, on va se reparler, mon cher Luc, dans 30 ans ou dans 40 ans, puis la situation va avoir changé. Parce que lorsque tu regardes les cycles économiques dans le domaine énergétique, il y a eu l'ère du charbon, il y a eu l'ère du pétrole. Un jour, il va y avoir l'ère de l'hydroélectricité ou des énergies vertes. Il y a toutes les juridictions sur la planète posent des gestes pour qu'on puisse arriver à cette transition. Mais ce que je peux dire
Et
ce
Justin
matin...
Justin Trudeau, il fait quoi, lui, dans ça? Là?
Ben, il va pleurer sa vie. Il va pleurer sa vie parce que... il y a quelque chose de vrai dans ce que Nathalie dit. Là. L'économie de l'Alberta, elle est
connectée sur...
Connectée, que tu dis, elle est connectée à la seringue sur le pétrole. 6 milliards de dollars de revenus juste sur les rentes pétrolières. Ça exclut les profits des entreprises, ça exclut les emplois à 100 000 $ et plus qui sont imposés. Pour l'instant, c'est 3 % de chômage de différence, mais ça va être une catastrophe s'ils sont pas capables de développer leur pétrole. Or, ils ont jamais mis d'argent de côté. Ils ont un fonds. Regarde, la Norvège a un fonds de génération, le fameux fonds. Un milliard, mille milliards. L'Alberta, 17 milliards. 17 milliards d'argent de côté sur 190 milliards de dollars de rente depuis 1985, sans compter les autres formes de revenus. Hey, ils n'ont pas mis d'argent de côté.
Ben oui, mais ça, c'est un défi pour l'Alberta. Pourquoi on ne s'inspirait pas de l'exemple de la Norvège? Deuxièmement, c'est pas vrai que Justin Trudeau va pleurer. Parce qu'il y a un plan B. Il y a un plan B là, qui se tourne Excel. C'est Trans Mountain qui s'en va vers la Colombie-Britannique, vers le marché du Pacifique, pour fournir la Californie en pétrole. Et de tous les projets de pipeline, il y en a 4 sur la table, 3 vont échouer, puis c'est celui-là qui va, selon moi,
mais
survivre.
En résumé, Biden est pour Paris et ne peut pas être pour Keystone, mais Justin peut être pour Paris et être pour Keystone.
Oui, mais c'est parce que lui, c'est Justin.
OK, au retour, politique municipale, Mme Plante est candidate, M. Jolicoeur a annoncé qu'il avait l'intention là aussi, de se présenter. La question qui, évidemment, est sans réponse pour tout de suite, est-ce que M. Coderre va faire le saut?